Sans plus attendre, on passe la parole à Juanita Ochoa. Te escuchamos.
Bonjour à tous et merci. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Je voudrais commencer mon exposé en citant une phrase de Lefebvre qui dit « La ville est morte, mais cependant l'urbain persiste ». En 1844, Federico Engels écrit son importante œuvre de jeunesse, La situation de la classe ouvrière en Angleterre. Cette œuvre maîtresse, appréciée par Lefebvre, décrit la façon mercantile capitaliste qu'ont les villes bourgeoises et les déplorables conditions dans lesquelles vit et survit la classe ouvrière naissante. Des espaces de production et de reproduction d'un nouveau système qui opprime et qui conditionne les travailleurs maintenant libres sur la base des nouveaux besoins d'exploitation et d'obtention de plus-value et de gains. Les villes d'Angleterre sont présentées par Engels, non pas depuis leur aspect architectural ou culturel, mais depuis une perspective critique et historique, économique et sociale, comme de vrais centres de dégradation de l'essence humaine en faveur d'un nouveau système d'exploitation. En récupérant cette importante perspective, Marx écrit non seulement l'idéologie allemande et d'autres écrits de jeunesse, mais aussi sa grande œuvre, Le Capital, critique de l'économie politique, dans lequel on peut trouver théorisé, avec beaucoup de détails, le sort des travailleurs chaque fois qu'a lieu une transformation dans le développement des forces productives du travail qui impacte sur leur vie quotidienne dans et hors de l'usine, en correspondance directe avec le développement de la loi générale d'accumulation capitaliste. Il existe d'importants textes dans lesquels sont décrits avec détail le sort de travailleurs comme l'armée ouvrière en actif et l'armée industrielle de réserve, particulièrement dans le chapitre 8, 13, 23 du tome 1 du Capital. Cependant, malgré l'importance de ces passages, le développement du sort de la classe ouvrière devrait être abordé en profondeur et de façon spécifique dans l'un des livres de la grande œuvre que Marx n'écrira pas sur le travail salarié et dans lequel on récupérerait comme centre de l'argument la population travailleuse dans ses dimensions individuelles et collectives de reproduction. De la même façon, il n'est pas fait référence non plus, ou seulement de façon générale, au scénario dans lequel confluent les grandes contradictions du capital et la lutte de classe entre la bourgeoisie et le prolétariat, les villes. Ceci, Lefebvre s'en aperçoit très tôt en signalant que dans l'œuvre de Marx et Engels, bien que la contradiction fondamentale de la division entre la ville et la campagne est considérée depuis ses œuvres de jeunesse, le thème de la ville comme catégorie principale n'a pas été récupéré ni analysé par eux comme un concept central dans les œuvres postérieures. Je saute une citation. C'est en ce qui concerne Lefebvre, en ce qui concerne pertinent de consacrer la plupart de ses études à développer ce sujet important en attente de la critique de l'économie de la société bourgeoise. Dans le livre Le droit à la ville, Lefebvre dit « La ville préexiste à l'industrialisation, comme centre de la vie sociale et politique, où s'accumulent non seulement des richesses, mais des connaissances techniques, des œuvres d'art et des monuments. Ce type de ville est en soi-même une œuvre d'art, une valeur d'usage transcendantale. » Mais en même temps que les sociétés sont happées par l'industrie capitaliste, la valeur d'usage de la ville se subordonne à la dynamique de la valorisation, dans laquelle la reproduction sociale opère comme une grande contradiction, et la valeur de change, la généralisation de la marchandise par l'œuvre de l'industrialisation, tend à subordonner la ville et la réalité urbaine. Cette contradiction de valeur d'usage-valeur présente dans l'analyse de la marchandise est utilisée, développée par Marx, est utilisée maintenant par Lefebvre pour caractériser maintenant la ville capitaliste. Ce qui est spécifique dans l'étude de Lefebvre sera caractérisé dans l'espace concret des villes dans lesquelles interagissent les classes, comme des centres de rencontres d'hommes et de femmes, c'est où, qui créent et recréent leurs espaces de cohabitation, faisant ressurgir le caractère au milieu de la contradiction, ce qu'il appelle le caractère urbain des villes, qui a la possibilité de faire irruption vers la transformation constante de l'espace urbain, humain, en essayant de réguler de plus en plus consciemment la croissance aveugle et irrationnelle de la ville. Pour Lefebvre, une analyse critique de la ville devrait considérer alors trois périodes dans sa croissance, dialectiquement intercalée dans sa progressive croissance. Le premier, dans lequel l'industrie assaille la réalité urbaine préexistante jusqu'à la détruire, ou presque, au moyen de la pratique et de l'idéologie. La deuxième période, dans laquelle l'urbanisation s'étend et se généralise comme espace de destruction socio-économique, en générant et en créant des espaces de vie totalement inadaptés dans des conditions de plus en plus précaires pour la population agglomérée autour des grandes villes. La troisième période, dans laquelle on retrouve ou on réinvente la réalité urbaine, en essayant de restituer la centralité de la ville comme un corps total. Il faut préciser qu'on ne se réfère pas ici à un temps historique ou à un système économique nouveau dans lequel auraient disparu les contradictions de classe, mais bien à un processus de transformation dans lequel l'espace réformateur, dans lequel l'espace doit être modifié. Cette trilogie dans le développement des villes est très intéressante pour caractériser des phénomènes urbains qui ont lieu dans différentes villes du monde tout au long du XXIe siècle. Dans la ville de Mexico, le cas de tremblement de terre du 19 septembre 2017. Pour comprendre la situation exceptionnelle de ce phénomène, nous devrons nous référer au fait que la ville de Mexico a été construite sur un énorme lac, un endroit où vivent actuellement presque 10 millions de personnes, ou 22 millions de personnes si on considère la conurbation. Au début du XXe siècle, pour assécher le lac, l'eau du sous-sol a été extraite et utilisée pour la consommation domestique et industrielle. Cependant, en raison de son extraction, la ville a commencé à s'enfoncer à une vitesse de près de 8 cm par an, raison pour laquelle, 40 ans 40 ans après, il a fallu transporter les puits vers les aires périphériques de la ville. Région qui, en ce moment, s'enfonce aussi, mais à raison de 10 à 20 cm par an. Cela a provoqué la déformation accélérée du sol, en affectant peu à peu aussi le logement de ses habitants, qui pendant les années 80, c'est-à-dire sont arrivés à peupler ces régions, en créant ce que Lefebvre caractériserait comme un phénomène de ruralisation de la ville. Que s'est-il passé dans la ville de Mexico? Le 7 et le 19 septembre, les deux tremblements de terre qui ont ravagé le pays ont eu un terrible impact sur les villes et de 10 États de la République. Et particulièrement, le second a affecté la ville de Mexico, affectant 10 arrondissements dans la zone centre et du sud-est. Les derniers calculs que nous avons maintenant sont la mort de 471 personnes, 12 millions de sinistrés, 180 000 habitats endommagés, 16 000 écoles et plus de 1800 monuments culturels touchés. Dans la capitale du pays, on a calculé 30 000 habitats endommagés, desquels seulement 20 000 sont dans un seul arrondissement, à Iztapalapa, qui est la zone que j'étudie, et selon des calculs faits par les autorités elles-mêmes. Particulièrement, la situation de ces populations est devenue désastreuse, puisque les fissures qu'il y avait dans la zone se sont approfondies en s'étendant vers d'autres régions, provoquant même la formation de cavernes ou de trous dans des centaines de villes et de rues qui ont été irrémédiablement abîmées. En termes de valeur d'usage, dans ces 10 arrondissements, des milliers de logements sont devenus des zones de désastre. Ces arrondissements sont le tiers de la ville de Mexico, avec 50% de la population qui y habite. Le 25% se trouve concentré dans cet arrondissement. À 8 mois après le tremblement de terre, des milliers de personnes continuent à vivre dans l'angoisse, les uns en dehors de leur ville, dans la rue, et d'autres qui restent dans leur logement sans avoir eu d'expertise ou de diagnostic, risquant leur vie en se réfugiant de façon très dangereuse dans leur maison détruite ou sur le point de s'effondrer, tandis que le gouvernement lésine sur les ressources qui supposément devraient être destinées à la reconstruction de la ville. En termes de valeur, les pertes n'ont pas été encore quantifiées. Les chiffres sont chaotiques et il n'y a pas de comptage sérieux à ce sujet. Un dernier chiffre dit que les pertes matérielles dans tout le pays à l'issue du tremblement de terre s'élèvent à 48 milliards de pesos. Mais le manque d'un diagnostic réel et de transparence dans l'administration, dans la gestion des ressources, a réveillé d'importants doutes quant à l'utilisation des fonds qui seront destinés à cette fin. Ajoutez à cela le rôle joué par le système national de protection civile et pendant le tremblement de terre a montré une capacité nulle de réponse selon une étude de la UNAM et de la Commission nationale des droits humains. Dans lesquels on rapporte que cet organisme n'a pas de sauveteurs spécialisés, ni les institutions conçues pour prévenir et réagir face à un sinistre. Les autorités civiles débordées délèguent aux militaires et aux forces armées les missions de sauvetage, bien que ces instances enfreignent les droits de l'homme des sinistrés. Le diagnostic présenté par l'étude dit que l'actuelle politique du gouvernement pour faire face à ces désastres donne la priorité aux fonds financiers de la reconstruction à des infrastructures face aux pertes et dommages relatifs à la vie et les droits les plus basiques de la population. Que se passe-t-il alors avec la reconstruction du pays et finalement avec la reconstruction de la ville de Mexico? Depuis plus de 30 ans, quelque chose qui a caractérisé le gouvernement néolibéral de notre pays, est-ce que le tribunal permanent des villages a appelé détournement de pouvoir? Processus dans lequel l'État mexicain et les institutions publiques se sont mises au service des grands intéressés privés et étrangers, se prévalant des traités internationaux pour dépouiller des richesses naturelles, des droits politiques et sociaux et des conditions de reproduction les plus basiques, la population de notre pays. Depuis le tremblement de terre du précédent, il y a 32 ans, l'État, sous cette nouvelle ligne néolibérale, a forgé quelques mécanismes financiers pour faire face aux sinistres, qui ont consisté en un fonds pour les désastres naturels et qui, pour à dire vrai, a servi pendant une vingtaine d'années comme fonds d'investissement. Ces actions de l'État qui sont plutôt des entreprises et financières, se sont renforcées par des lois nouvelles décrétées après le tremblement de terre, en favorisant l'investissement privé dans le processus de la reconstruction et en évitant le plus possible la démolition des immeubles abîmés, en attachant les mains des propriétaires pour pouvoir décider de façon individuelle, collective et d'autogestion. Au milieu de ce panorama, dans plus de délégations, s'est mobilisé avec ses propres ressources. On a créé des organisations qui s'appellent les Sinistrés Unis de la ville de Mexico, qui rassemble les populations des 10 zones affectées en faisant leur propre diagnostic et en prenant les mesures importantes pour faire pression sur les autorités d'arrondissement. Et aussi les universités publiques, les professeurs, les étudiants, les activistes sont venus aider ces zones en faisant un effort d'ensemble, parallèle ou indépendant, des efforts qui au fur et à mesure se sont intégrés au fur et à mesure que les corps de recherche mûrissaient. La population des rues ont fermé la circulation, ce qui faisait trembler le sol endommagé, et se sont créés des groupes d'habitants pour répondre aux problèmes les plus aigus. Et bien qu'il n'y en a pas beaucoup, les efforts des géologues sont très précieux, des architectes, des travailleurs sociaux, des géographes et des sociologues indépendants qui ont travaillé avec les communautés sans ressources, des institutions du gouvernement. Nous, en tant qu'université publique, faisant un exercice de participation communautaire et agissant en conséquence avec notre droit à la ville, avec quelques étudiants et professeurs, nous nous sommes réunis avec les sinistrés des quartiers qui compte avec une tradition d'organisation en matière, et nous avons visité les zones touchées. Notre travail a été d'abord d'accompagnement et de visibilisation des conditions de vie dans lesquelles survivaient les populations. Les gens craignaient pour la sécurité de leurs enfants et les personnes âgées, pour l'abandon de des autorités qui leur suggéraient d'apprendre à vivre au milieu des fissures, et pour l'ambiance d'insalubrité, pour la gestion des services d'eau, drainage, lumière et gaz. Avec ce désastre, la délinquance a augmenté, les cambriolages, les enlèvements d'enfants dans la rue, et les maladies ont grandi parmi les habitants, laissant des syndromes psychologiques post-traumatiques. Ils ont été laissés de côté pour être considérés comme un luxe qui n'était pas à l'ordre du jour. Une véritable tragédie urbaine dans laquelle, à la tragédie socio-économique, se rajoutait la tragédie socio-environnementale et une politique d'abandon et de manipulation électorale exercée par l'État. Dans un parcours suivant dans la zone de Tláhuac et Iztapalapa, nous avons été accompagnés par un groupe de géologues qui solidairement sont venus à notre appel des communautés affectées. Dans le parcours de reconnaissance, on a observé qu'il y avait un sol qui avait disparu. Et il ne s'agissait pas de constructions qui auraient fait défaut. Face à l'absence d'un diagnostic, un mois après le sinistre, Les experts en la matière ont envoyé une lettre au gouvernement de Mexico dans laquelle était décrite la situation du sol de la zone de catastrophe et dans laquelle, comme mesure d'urgence, il proposait le relogement solidaire pour les familles qui se trouvaient dans les zones dans lesquelles, clairement, le sol avait disparu. Cette prise de position de la part de nos collègues géologues a généré une réaction positive dans les communautés qui se sont senties accompagnées et vraiment prises en compte. Il n'en est pas de même avec le gouvernement et les autorités et d'autres groupes de pouvoir qui ont vu dans cette initiative une intromission flagrante dans le domaine qu'ils considéraient comme le leur et face auquel ils étaient obligés à donner leur diagnostic et à agir en fonction des intérêts et des convenances économiques pour les communautés affectées. Ce groupe d'expertes solidaires a développé avec nous un projet à court terme, un projet pilote dont l'objectif est d'offrir un diagnostic des dommages soufferts dans cette zone. Je vais conclure. Jusqu'à ce moment, nous avons réussi à parler avec 587 foyers qui affectent 5000 personnes, détectant une centaine de trous et 166 dénivellations du sol. La création de trous dans les logements sont une preuve importante que le problème le plus grave se trouve dans le sol. Et selon le diagnostic de nos expertes, il n'y a pas de remède architectural ou d'ingénierie qui soit capable de résoudre ce problème. Raison pour laquelle la proposition de relogement solidaire est clairement pertinente et urgente après notre parcours sur la zone du désastre. La recherche continue et après avoir continué à travailler sur cette zone, nous avons l'intention de retourner cette étude vers les communautés pour que ensemble pour que nous continuions à promouvoir une intégration des sciences autour d'une réalité urbaine qui demande l'intervention collective des scientifiques de toutes les disciplines engagées dans la société pour le droit à la ville dans les termes que Lefebvre appellerait faire renaître une réflexion urbanistique qui soit successeur d'un urbanisme sans réflexion. Beaucoup d'autres l'ont fait avant et nous continuerons cette tâche. Merci.